vous suit.
Voici les titres du journal.
Des squelettes sous le chantier, des archéologues au travail et une inauguration repoussée. La maison intergénérationnelle de Villeneuve ouvrira finalement ses portes en mars prochain. Les soirées Commune Histoire reprennent le 5 février. Démarrées en début d'année passée dans le Chablais, ces contes à deux voix chez l'habitant ont trouvé leur public. Le spectre de la relégation est une réalité pour le HC Montet-Chablais. Après seulement 14 rencontres de saison régulière en deuxième ligue, les Bavalaisans débuteront le Master Round demain et tenteront d'éviter la finale de play-out. Et puis enfin, après Adel Boden, place à Wengen. Les fans suisses pourront pousser les skieurs sur le Lauberhorn dès aujourd'hui et pour tout le week-end. Les athlètes, eux, s'imprègnent volontiers de cette énergie sans se mettre de pression supplémentaire.
Pour la météo aujourd'hui, du soleil aussi pour ce week-end avec tout de même quelques grisailles sur le Chablais le matin. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journeau. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Villeneuve doit retarder l'ouverture de sa future maison intergénérationnelle à la suite d'une découverte hors du commun. Une huitantaine de squelettes enfouis sous le sol a été révélée lors de travaux pour installer les canalisations d'eau. Des archéologues s'affairent actuellement sur place pour analyser ces restes humains. Le responsable d'opération chez Archéo du Noum, Investigation Archéologique, Lucien Rabou.
On s'y attendait, on est arrivé dessus, maintenant il faut traiter ces squelettes. C'est très intéressant car c'est vraiment très dense comme je l'ai dit avant. Donc il y a quand même une grande compréhension des squelettes par rapport aux autres, qui a été mis avant, etc. Je pense que les gens s'attendent aussi à qu'il y ait des objets, mais là autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est tout à fait normal parce qu'à ces époques médiévales, on enterrait avec peu d'objets. Donc on ne va pas trouver des épingles, ce genre de choses, c'est assez rare.
Il s'agit là d'un travail de précision. Les squelettes sont dégagés à l'aide de pinceaux et de petites spatules, puis documentés, photographiés et géoréférencés. Une fois ces étapes terminées, les os partiront en laboratoire pour des analyses approfondies, un processus méticuleux qui permettra ensuite de finaliser un rapport. On retrouve Lucien Rabou.
Un rapport d'intervention sera écrit et toute une étude sera effectuée sur ces squelettes, justement. Donc nous pourrons déterminer l'âge des décès, le sexe des décès, mais voilà, leur maladie par exemple, leur disposition, est-ce qu'il y avait des cercueils, est-ce qu'il n'y en avait pas. C'est toutes ces choses qu'on pourra ensuite déterminer lors de l'étude.
En attendant la fin des fouilles, l'inauguration de la maison intergénérationnelle est reportée à mars. Ce futur lieu de vie accueillera des activités pour tous les âges, avec un nom choisi par les habitants à travers un concours. Les précisions de Marie-Claude Pellet, municipale en charge des nouvelles constructions.
La municipalité a trouvé que le nom de maison intergénérationnelle, c'était un peu long. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert à la population l'idée de trouver un nom plus court et plus simple et porteur. Les propositions étaient attendues jusqu'au 31 décembre, donc aujourd'hui on n'a encore pas fait de choix.
C'était un sujet réalisé par Julie Gay.
Les soirées Commune Histoire reprennent.
Ces contes à deux voix proposés par la compagnie Aussitôt ont démarré en début d'année passée dans le Chablais. Le but, découvrir une culture différente au travers d'une histoire racontée par un ou une conteuse, accompagnée par une personne de langue étrangère. Le lieu est différent à chaque fois puisque c'est chez un habitant de la commune que la soirée se déroule. Ces soirées ont su trouver leur public avec parfois plus de 40 personnes qui ont fait le déplacement. Fort de ce succès, le projet va donc se poursuivre en 2020. Avec le premier rendez-vous à Colombey-Murat. Catherine Bézard, l'une des conteuses à l'origine du projet.
C'est toujours le premier mercredi du mois et ce qui nous tient aussi à cœur, c'est que le rendez-vous est toujours à 19h devant la maison de commune. C'est commune, histoire, c'est chaque commune. Et que les gens arrivent à l'heure parce qu'on attend 5 et 10 minutes, pas plus, hein, il fait froid. Hein. Et puis ensuite, on est amené chez quelqu'un. Et la particularité aussi, c'est de se dire, on ne va pas annoncer quelle langue est parlée ou quelle personne va raconter ou chez qui. C'est vraiment une démarche de se dire, ah bien, j'ai envie ce soir de partir à la découverte, de partir en voyage.
Et on se laisse porter.
Et on se laisse porter, oui.
Toutes les informations se trouvent sur le site internet de la compagnie Aussitôt.
Jacques Fazel, ancien braqueur et figure de l'anarchisme roman, était de passage à Sion cette semaine.
Au cinéma de Sion, plus précisément. Son histoire et celle de sa clique sont au cœur d'un documentaire actuellement en salle, Autour du feu, réalisé par Laura Casador et Amanda Cortés. Les deux cinéastes ont choisi d'explorer de manière neutre la thématique de la révolte, en confrontant deux générations de révolutionnaires, la bande à Fazel, qui braquait des institutions dans le but de redistribuer le butin, et de jeunes militantes actuelles anonymes dans le film, et membre de collectifs comme la ZAD ou Extinction Rebellion dans la vie. Jacques Fazel évoque cette rencontre et ce qu'il en a retiré.
Je me suis très vite rendu compte que les jeunes ont beaucoup plus à nous apprendre que nous avons à leur apprendre. J'étais heureux d'entendre leur version des faits. Et j'étais aussi heureux de m'apercevoir qu'ils avaient compris notre message, avec lequel ils n'étaient pas toujours d'accord. Par exemple, notamment au niveau de la violence. Beaucoup de ces jeunes générations refusent ce que nous avions utilisé, c'est-à-dire la violence et la capacité d'être tué et de tuer. Tandis que les jeunes choisissent des outils plus collectifs, plus pacifiques, mais tout aussi de temps en temps illégaux.
Des propos recueillis par notre consoeur de Rhône FM. À noter encore que ce documentaire sera projeté mardi 21 janvier à Martigny et jeudi 23 janvier à Monthey. Et on continue à parler cinéma, et le cinéma suisse a attiré un nombreux public dans les salles obscures en 2024. Les films helvétiques ont comptabilisé plus de 907 000 entrées, soit environ 200 000 de plus qu'en 2023. Cela représente une part de marché de 9%. Trois avocats de l'opposant russe Alexei Navalny, mort en prison il y a près d'un an, ont été condamnés aujourd'hui en Russie à des peines de prison ferme pour extrémisme, selon des journalistes de l'AFP présents au tribunal. Le pays est engagé dans une campagne de répression des détracteurs de Vladimir Poutine, en particulier ceux proches de Navalny, et ceux dénonçant l'assaut russe contre l'Ukraine lancé il y a près de 3 ans. Et on passe au sport, et 3 matchs et 3 finales pour le HC Monthey-Chablais. Les Bavalaisans ont terminé la saison régulière de 2e ligue au 8e et dernier rang. Ils affronteront ainsi les équipes classées de 6 à 7 dans 3 rencontres, lesquelles pourraient leur permettre de quitter les 2 dernières places afin d'éviter une finale de play-out et une tant redoutée relégation. À la veille de débuter ce mini-tournoi de la peur, l'entraîneur des Monthaisans, Beat Kindler, est très remonté contre cette formule, surtout que le championnat ne comptait que 14 rencontres au total.
C'est clair, c'est un peu spécial. Déjà, comme moi j'ai toujours dit, mais je ne suis pas content avec les championnats de formule. Qu'est-ce qu'on a, c'est vraiment pas bon, c'est vraiment pas bien. Et puis, moi j'ai déjà dit à la Ligue, c'est vraiment nul. Et puis voilà, ça c'est mon plein vue personnel. Et puis voilà, parce qu'en deuxième Ligue, les joueurs, nous on va jouer les matchs, on va pas s'entraîner et puis pas jouer. 14 matchs dans une saison, c'est vraiment pas bien. Et après, la Ligue, ils décident pour faire une équipe indécente, ils pleurent toujours, on n'a pas assez de monde. Et puis là, ils vont descendre encore une équipe. Alors, je comprends pas ça, mais voilà, on doit faire. C'est eux, ils ont décidé, on doit faire. Et puis, ils disent toujours, oui, on peut dire qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis, il fait quand même comme il veut. Alors, ça, c'est un peu plus difficile, ouais.
Beat Kindler répondait à Thierry Nicolet. Ce Master Round débutera demain à 20h30 pour les Monthaisans sur la glace des Fribourgeois de Bösingen.
Skier à Wengen, c'est aussi profiter de l'ambiance des fans suisses.
Et les skieurs helvétiques ne le cachent pas. Ils profitent des étapes de Coupe du Monde en Suisse afin de retrouver leurs proches, mais aussi de ressentir l'énergie du public. Alors que le ski suisse signe une saison formidable, notamment en vitesse, le public s'attend de plus en plus à des exploits. Cette pression, les skieurs ne la ressentent pas, à l'image du Valaisan Loïc Meillard.
C'est un peu comme Adèle Boden, c'est clair qu'il y a un public qui est là, c'est fantastique et on en profite au maximum. À la fin, je suis au départ pour moi et je sais que voilà, je vais donner le maximum de ce que j'ai. Est-ce que c'est assez ou pas, on le sait que le jour même de la course, les autres font pareil. Mais en tout cas, ça ne rajoute pas une pression supplémentaire.
Donc ça ne donne pas de l'énergie non plus ?
Si, je pense en tout cas ça donne envie de bien faire, c'est clair. Ça motive à vouloir se surpasser un petit peu et vouloir montrer des belles choses.
Même constat du côté de Marco Odermatt, l'actuel leader du classement général de Coupe du Monde, avoue avoir assez d'expérience pour prendre le recul nécessaire.
C'est pas comme ça parce que j'ai déjà beaucoup de victoires et je gagne plus ou moins tout comme je veux. Et comme ça, c'est pour moi et moins pressure pour moi.
Plus de plaisir et moins de pression.
Oui, exactement. Bien sûr, au jour des courses, la pression est ici et aussi tu es nerveuse un peu. Oui, à la fin, c'est plus de plaisir, exactement.
Il y a un autre skieur qui ne veut pas se mettre la pression, c'est Arnaud Boisset. De retour à Wengen après 6 semaines de repos à la suite d'une commotion à Beaver Creek, le jeune martignerin estime que c'est le bon moment pour se remettre en piste, même s'il ne pourra pas forcément jouer le top 15 comme il l'avait fait sur le Lauberhorn l'année passée.
La météo est aussi parfaite, la neige est vraiment idéale, donc c'est bien pour se remettre en jambes, c'est clair. Et puis des jours comme aujourd'hui, en fait, j'en apprends vraiment beaucoup. Il y a des courbes, il y a des passages assez techniques comme le Hund Jump, comme le Bruckliès, et puis il y a des passages à haute vitesse, on arrive à 150 km/h, et c'est des choses qui ne sont pas simulables et donc je n'ai pas refait depuis plus d'un mois et demi. Je pense que Wengen, voilà, il y a quand même beaucoup de parties plutôt faciles, plutôt planes. Il y a des gros sauts, il y a des passages impressionnants, mais je pense que c'est une piste qui se prête bien, en tout cas beaucoup mieux que Bormio, et c'est pour ça qu'on n'est pas revenu sur Bormio. Je pense aussi mieux que Kitzbühel, et du coup bah voilà, le calendrier a fait que j'ai repris à Wengen et c'est comme ça.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Wengen, Stéphanie Wenker, ainsi que notre collègue Thierry Nicolet. Il a noté que le Super G de Wengen débutera d'ici quelques minutes, c'est-à-dire à 12h30. Et puis on termine ce journal avec un mot de football. Le FC Sion a complété son effectif en engageant l'Italien Federico Barba. Le défenseur central de 31 ans rejoint le Valais en provenance de Côme, club de Serie A, avec un contrat valable jusqu'à l'été 2027.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.